Merci Seigneur. Si vous vous rappelez, quand on a fait l'introduction au vase restauré, j'ai insisté sur la conversation qu'a eue Jésus avec le docteur de la loi. Et le docteur de la loi voulait savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir la vie éternelle. D'accord ? Donc on pourrait dire la vie éternelle, c'est la vie quand on va mourir. Hein ? On pourrait penser ça dans un premier temps. Mais en réalité, la vie éternelle, elle commence dès qu'on a fait alliance avec Jésus. Et elle ne se termine pas. C'est-à-dire que notre âme ne va pas mourir. Notre âme, il continue dans la vie éternelle avec le Seigneur. Et donc, lui, il voulait un petit peu piéger Jésus. Et en réalité, Jésus lui a dit, mais qu'est-il écrit dans la... Alors, à l'époque, c'était la loi, puisque tu es docteur de la loi. Et donc, il a dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, et aime ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui a répondu, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Oui. Vivre, ici, on retrouve, hein, c'est la vie éternelle, en grec, ça c'est Zoé, hein, et c'est une puissance, c'est la puissance de Dieu dans notre vie. Hein. Et cette puissance-là vient à la nouvelle naissance. Dès qu'on reçoit la nouvelle naissance, on reçoit le Saint-Esprit et on reçoit cette puissance de vie. Et donc, on voit à travers cette conversation avec le docteur de la loi que la vie éternelle, elle va dépendre de nos relations. L'amour entre nous et Dieu, entre avec nous-mêmes, faire la paix avec nous-mêmes et faire la paix avec les autres. Donc, on voit combien c'est important de soigner nos relations. Sans doute, la chose la plus difficile à faire sur cette terre, soigner nos relations. Le but de cette neuvième étape, c'est celui-ci. Nous avons réparé nos torts directement envers ces personnes, dans la mesure du possible, sauf lorsque, ce faisant, nous risquions de leur nuire ou de nuire à d'autres. Donc voilà un petit peu ce qu'on va voir ce soir. Et on va voir comment réparer nos torts. Et évidemment, on va parler du pardon. Il ne peut pas y avoir de relation sans pardon. Ça n'existe pas. Parce que nous faisons tous des erreurs. Et donc, dans nos relations, eh ben, quelquefois, on va nous faire du tort. Et quelquefois, c'est nous qu'allons faire du tort. C'est une évidence. C'est la vie, c'est comme ça. Et on le verra tout à l'heure dans une citation, la seule façon que Dieu a trouvée pour que les hommes ne soient pas toujours en guerre, eh ben c'est le pardon. Et notamment, on le voit dans le mariage. Hein, on le voit dans la relation avec le mariage, parce que s'il n'y a pas de pardon entre nous, le mariage ne peut pas exister. Il ne peut pas survivre, le mariage, sans le pardon. On se fait du mal dans le mariage, et les torts sont plus ou moins partagés, mais il faut reconnaître que ben, on se blesse dans le mariage comme on se blesse ailleurs. Mais on le voit plus spécialement dans le mariage parce qu'on est tout le temps ensemble. Donc les occasions sont multipliées. Et donc si on n'apprend pas rapidement ce que c'est que le pardon et vive le pardon comme quelque chose qui va de soi, hein, comme quelque chose qui coule naturellement, eh ben, notre mariage va être très compliqué. Parce que si on ne se pardonne pas les choses, ça veut dire qu'on va générer de la colère, on va générer de ce qu'on appelle de l'amertume, et l'amertume, c'est un poison qui fait son travail petit à petit. Et quand il a bien réussi son travail, eh ben, en fait, il a réussi à saper l'amour qu'il y avait entre nous. Donc, le mot « liberté » que j'ai employé tout à l'heure en présentation, la première slide, le mot « liberté » semble être celui qui décrit avec le plus d'exactitude à la fois l'essence de la neuvième étape, par-dessus tout le bénéfice qu'on va pouvoir en retirer, être libre. Quand on ne pardonne pas, on le verra ce soir, quand on ne pardonne pas, ça veut dire qu'on n'est pas libre avec cette personne-là. On va parler de prison, on va parler de retenir prisonnier quelqu'un Et en fait, on ne peut pas avoir la paix parce que cette personne-là, elle est retenue prisonnière en nous. Cette étape est nécessaire pour se libérer du passé, reconstruire votre vie sur un fondement solide et vous permettre, dans la mesure du possible, et quand cela est souhaitable, de vous réconcilier avec les gens qui vous ont blessé et que vous avez blessé. Mais on verra dans cette soirée que cela n'est pas forcément toujours souhaitable. Ce qui, par contre, n'est pas une option, c'est le pardon. Mais le pardon ne veut pas dire qu'on va se réconcilier avec la personne. On verra les différentes possibilités. Donc, à l'étape précédente, avec courage, vous avez établi deux listes. Celle des personnes qui vous avaient blessé et celle que vous avez blessée. Il faut passer maintenant à la phase pratique. Et c'est ce qui constitue le défi principal de cette étape. Cette nouvelle étape, c'est le moment idéal pour laisser tomber l'horrible sentiment qu'on peut éprouver à l'égard de notre passé et pour examiner l'état de nos relations, tant passées que présentes. Parce que vivre avec le fardeau de conflits non résolus nous empêche de vivre dans la vraie liberté. On ne peut pas être dans la vraie liberté si on n'a pas résolu nos conflits dans nos relations. C'est impossible, c'est du déni. On peut se le dire, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Par exemple, vous évitez des lieux où vous êtes susceptible de rencontrer les gens que vous avez offensés. Vous ne participez plus à certaines réunions de famille ou à des rencontres d'amis. Vous avez choisi de ne plus fréquenter l'église où vous alliez habituellement. Et du coup, vous vivez avec le poids de la culpabilité, de la honte, de ce qui s'est passé, ou demeurez tourmenté par l'amertume et le ressentiment vous garderont prisonnier du passé. Là, j'ai bien employé le mot « tourmenté » parce que c'est le résultat du non-pardon. Quand on ne pardonne pas, on est tourmenté. Parce que nous avons des bourreaux. Et des bourreaux qui ne nous lâchent pas. Dans la culpabilité, dans le fait qu'on sait que ce n'est pas bien, on est livré aux bourreaux. Alors, je ne vais pas faire ce soir, parce que je n'ai pas le temps, l'exégèse de cette parabole du serviteur impitoyable. Mais le serviteur impitoyable qui a reçu le pardon, hein, je vous la fais court, hein, qui a reçu le pardon, mais qui n'a pas su le donner à un copain à lui qui lui devait quelques pièces d'argent, le roi qui représente le Seigneur était en colère et il l'a livré au bourreau. Et ça rigole pas le non-pardon. Parce qu'on est livré au bourreau, ça veut dire qu'on va être tourmenté par la décision qu'on a prise. Nous sommes le produit de notre passé, mais nous n'avons pas à en être les prisonniers. Et Rick Warren qui a dit ça, c'est un pasteur aux États-Unis qui est connu, hein, il a dit nous sommes le produit de notre passé, évidemment, hein, mais on n'est pas obligé d'être prisonnier de ce passé. Ce n'est pas tant ce qui est survenu dans notre vie qui nous tourmente que ce que nous nous racontons, c'est-à-dire notre narratif depuis tout ce temps-là. Notre narratif est appelé à être corrigé pour être en conformité avec les Écritures. Quand on grandit spirituellement dans la parole de Dieu, eh ben on se rend compte que Jésus est passé par là, Jésus a été victime de toutes sortes d'injustices, mais il nous montre l'exemple en disant « Père, pardonne-leur, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils disaient. » Et l'autre façon de faire, c'est « Père, pardonne-moi, je ne savais pas ce que je faisais, ce que je disais. » En réalité, dans beaucoup de fois, ben, on est emporté dans notre colère, on est emporté dans nos émotions, hein, et quelquefois on va regretter, hein, ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait, parce que ben, on était emporté, et comme dit le dicton, quelquefois nos paroles ont été plus vite que nos pensées. Et donc, c'est important d'avoir cette conscience-là que les gens qui nous entourent C'est pas qu'ils nous veulent du mal, hein, c'est pas qu'ils veulent nous faire du mal absolument, mais c'est que on se blesse maladroitement. Hein. Et je dis souvent, c'est pas parce qu'on s'aime pas, c'est parce qu'on s'aime mal. Hein. Notre passé, notre histoire, notre quelquefois, on n'a pas encore guéri, on est encore à fleur de peau sur certains sujets, et quelquefois, eh ben, on est sensible sur certains sujets. Et donc, comme on n'est pas encore guéri, ben, on va mal agir. Les blessures relationnelles laissent en nous des traces durables et douloureuses. La seule façon d'y remédier est de faire en sorte que le passé cesse de nous tourmenter. Des ressentiments de honte, des ressentiments de culpabilité ou de peur, et de faire la paix avec les autres. C'est le chemin. Le chemin, faire la paix avec les autres de façon à ne plus être tourmenté. La reconnaissance de nos torts envers les personnes que nous avons lésées constitue un premier pas qui nous aidera à rétablir les relations. Lorsque celles-ci s'améliorent, nous cessons ainsi de ressasser constamment dans notre esprit nos souvenirs douloureux. C'est la décision efficace de s'affranchir du passé. On doit reconnaître nos torts dans une relation, même si c'est difficile. Une relation n'est jamais à 100% la faute de l'autre. Donc, nous avons réparé nos torts. Première partie de la phrase qu'on a vue tout à l'heure. Nous avons réparé nos torts. En réparant nos torts, nous reconnaissons et admettons que nous avons commis des erreurs et causé des préjudices en raison de nos défauts, de nos lacunes ou de nos problèmes. Nous avons déjà commencé le travail en changeant notre façon de nous comporter, en remplaçant nos croyances et convictions erronées et surtout en adoptant une attitude différente face aux autres. Tout ce cheminement qui conduit à notre transformation a déjà un effet sur tous ceux qui nous entourent. Il se poursuivra davantage au fur et à mesure de nos démarches de réparation. Réparer nos torts ne doit pas toujours être perçu comme une expérience angoissante, éprouvante. En fait, vous découvrirez que vous pouvez éprouver de la joie, être excité ou du moins soulagé par la possibilité de guérir d'une relation brisée. Il y a une liberté que l'on gagne en faisant le ménage dans le passé, une liberté de vivre paisiblement dans le présent. Nous faisons la paix avec nous-mêmes, en faisant la paix avec les autres. L'idée et l'éventualité de réparer les torts comportent deux dangers possibles. Le premier danger consiste à sauter cette étape ou à la repousser sans arrêt en vous disant que, puisque vous avez déjà reconnu vos torts et vous les avez confessés à Dieu et à quelqu'un d'autre, donc maintenant le problème, il est résolu. Alors, à quoi sert-il d'aller plus loin et de prendre le risque de réveiller le passé? Sachez que prendre conscience des erreurs commises ne suffit pas et ne constitue aucunement une réparation des torts causés. Le problème peut sembler résolu pour vous, mais il ne l'est sûrement pas pour les personnes qui ont été lésées par vos actions. Le seul moyen de le savoir, c'est de les rencontrer. Le second danger est à l'inverse et consiste à agir avec précipitation, sans sagesse ni discernement, causant ainsi davantage de souffrance aux autres autant qu'à soi-même. Peu importe à quel point vous ressentez le besoin de réparer les choses, contraindre une personne à vous rencontrer ou la forcer à vous écouter ne fait pas partie de l'état d'esprit qui anime ces étapes. D'accord ? On ne force pas les choses. On demande si on peut rencontrer la personne ou si ça peut se faire au téléphone. Mais si la personne est encore trop blessée et qu'elle ne veut pas vous écouter parce qu'elle ne vous fait pas confiance, alors on ne force pas les choses. Lorsque les personnes que vous avez blessées ou qui vous ont blessé ne sont pas capables ou ne sont pas désireuses d'accepter votre démarche de réparation, vous devez respecter leur choix. N'oubliez pas que votre initiative vise à rétablir une relation et non à créer d'autres problèmes. pour vous aider à saisir les tenants et aboutissants de cette étape, nous allons aborder quatre facettes qui décrivent bien les différents angles propres à la réparation. On va les appeler les quatre R. Il s'agit de la restauration, de la résolution, de la restitution et de la réconciliation. De façon générale, la restauration vise à ramener quelque chose à une condition normale ou à un état de fonctionnement optimal. Pour cela, il faut pouvoir vous investir à fond, pas seulement chercher à rafistoler grossièrement vos relations. Il faut accepter la responsabilité d'un problème avant de pouvoir le résoudre. La résolution des problèmes va constituer le second aspect de la réparation et consiste à mettre en œuvre des solutions afin de régler, autant que faire se peut, les problèmes non résolus depuis longtemps. Beaucoup pensent à tort avec le temps que les problèmes finissent par disparaître. Mais les problèmes ne s'évaporent pas. S'ils ne sont pas affrontés et résolus, ils persistent et demeurent. Dans cette démarche de résolution, vous avez l'obligation des moyens, mais pas nécessairement des résultats. Cela signifie que vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour régler les problèmes sans que cela ne vous assure d'un dénouement favorable. Parce qu'il faut être deux pour régler un problème. Donc vous pouvez faire la démarche sincèrement que vous voulez régler le problème dans le sens de reconnaître vos torts. Et après, soit la personne acceptera ou soit la personne ne l'acceptera pas. Le troisième aspect de la réparation, ça fait appel à la restitution. C'est un des aspects les plus difficiles de la réparation, puisque la restitution, par définition, consiste à rendre quelque chose à son propriétaire légitime. Cela peut prendre la forme d'une compensation ou d'un dédommagement ou encore d'un remboursement. Cela peut être concret lorsque, par exemple, la personne a été lésée physiquement, financièrement ou matériellement. En d'autres occasions, cela est davantage abstrait lorsque la personne a été victime de médisance, de dénigrement, de négligence ou d'un abus quelconque. C'est plus difficile. La restitution constitue un aspect important pour rompre avec le passé et se libérer des entraves qui vous lient à certaines personnes. Tant et aussi longtemps que vous ne réglerez pas certaines dettes ou que vous ne restituerez pas certaines choses mal acquises, vous resterez lié à cette personne-là. Enfin, dernier point, la réconciliation. La réconciliation constitue le dernier aspect et a trait à la relation en tant que telle. Dans son étymologie latine, le verbe « réconcilier » implique de rétablir un accord entre des personnes en opposition pour les réunir à nouveau. Il fait allusion au fait de raccommoder une relation qui a été brouillée. Très souvent, nous imaginons la réconciliation comme une finalité, mais cette étape fait davantage référence à vos tentatives honnêtes d'abattre des murs et de rebâtir des ponts en vue d'une éventuelle réconciliation ou du moins d'une amélioration de vos relations. Et ne vous découragez pas face au refus de ceux qui ne veulent pas vous rencontrer. Parfois, les frustrations ou les souffrances qu'ils éprouvent les empêchent de s'ouvrir à une démarche de réconciliation. Dans ces moments, seuls votre attitude, vos comportements et vos réactions sauront démontrer à tous que vous avez vraiment changé. Quelquefois, les paroles ne suffisent pas. Il faut des actes parce que les gens n'ont pas confiance et ils vont regarder à vos actes et ils ont peut-être raison parce que les paroles, c'est plus facile que les actes. Comme vous le remarquez, la réparation des torts causés n'est pas une mince affaire. Comme ce fut le cas dans les étapes précédentes, vous aurez besoin de courage et d'humilité. Si vous étiez certain du résultat de toutes vos démarches, vous n'auriez pas besoin de courage. À partir des deux listes que vous avez dressées à l'étape précédente, vous devez maintenant établir un ordre de priorité et placer en tête de liste les personnes que vous devez contacter en premier. Donc, on va mettre, en général, il y a quatre catégories de personnes auxquelles vous aurez à faire face. Les personnes qu'il est nécessaire de rencontrer le plus rapidement possible. Une deuxième catégorie de personnes, c'est les personnes pour lesquelles vous ne pourrez réparer que partiellement ce que vous aurez fait. Ensuite, les personnes et les situations pour lesquelles il convient de repousser ou de retarder votre tentative de réparation, parce que soit ils ne sont pas prêts, soit on n'est pas dans les bonnes circonstances, pas le bon timing, mais votre cœur est disposé à réparer. D'autres pour lesquels, par la nature même de la situation, vous ne pourrez jamais établir un contact personnel direct. Peut-être que c'est des gens qui sont partis, vous ne savez pas où ils sont. Peut-être que c'est des gens qui sont décédés. Donc, pour différentes raisons, on ne pourra pas toujours réparer. Les personnes qu'il est nécessaire de rencontrer le plus rapidement possible, c'est qui ? Ben, c'est les personnes de la première catégorie qui comprennent celles qui sont importantes à vos yeux, avec lesquelles vous êtes en relation. Comme les membres de votre famille, vos proches, vos amis, vos collègues de travail. Il est évidemment primordial de joindre ces personnes sans tarder afin de rétablir les liens ou du moins de reconnaître vos torts. Cependant, vous devez commencer lentement. Ne cherchez ni à contrôler, ni à manipuler pour arriver à vos fins. Les gens qui ont été blessés par vos agissements vont résister à l'idée de vous croire ou de vous faire confiance à nouveau. Pour cela, vous ne devez pas mettre de pression sur eux. N'oubliez pas que vous ne cherchez pas à réparer les torts pour vous sentir mieux, mais pour rétablir une relation qui a été endommagée. Les personnes pour lesquelles vous ne pourrez réparer que partiellement ce que vous aurez fait, la deuxième catégorie de personnes. Les personnes qui appartiennent à la deuxième catégorie peuvent être votre conjoint, un ancien partenaire d'affaires ou des amis. Lorsque vous êtes prêt à faire amende honorable auprès de ces personnes, vous devez évaluer avec soin si le fait de s'amender complètement ou de divulguer entièrement ce que vous avez fait peut aider ou nuire à la situation. Quelquefois, des révélations complètes peuvent faire plus de mal que de bien. Par exemple, confesser un adultère passé est susceptible de briser la confiance du mari ou de la femme et ainsi de ruiner le mariage. Dans ces cas-là comme cela, vous devez chercher la sagesse auprès de Dieu et auprès de conseillers expérimentés. Voilà un exemple un peu extrême, hein, où est-ce que l'on doit confesser un adultère au risque de perdre notre mariage, ou est-ce qu'on ne doit pas le confesser parce qu'on sait que si on le confesse, on va tout foutre en l'air. Donc, il faut aussi de la sagesse, parce que quelquefois, on est dans des bonnes intentions, mais la personne va peut-être mal réagir. Et donc, dans ce cas-là, il faut être sage. Dans certains cas, vous pouvez aussi utiliser la technique de la chaise vide, comme on l'avait vu à l'étape 5, ou encore écrire une lettre adressée à la personne et dans laquelle vous exprimez vos regrets. La réaction des autres ne doit pas contrôler votre rétablissement. Comme pour toute autre étape, la neuvième étape demande beaucoup de temps et de patience. Il y aura des gens qui pourront penser que votre tentative d'arranger les choses n'est qu'une autre manipulation. Vous devez être patient et comprendre leur réaction. Si vous continuez à faire preuve de persévérance, les personnes qui doutent finiront par être convaincues de votre bonne foi. Si elles ne sont pas du tout disposées à pardonner, votre démarche aura tout de même un effet bénéfique sur vous. Vous aurez fait la démarche et au moins vous pouvez déjà avec vous-même dire voilà, j'ai essayé, bon ben là ça bloque, c'est pas possible, mais au moins moi je demande pardon à cette personne-là. Malgré tout, ceux qui font une démarche sérieuse et honnête constatent souvent que la personne à qui ils ont causé du tort est plus que disposée à accepter ses excuses et ses regrets. Deuxième phrase qu'on a vue, deuxième morceau de phrase, dans la mesure du possible. Mais que signifie réparer les torts dans la mesure du possible ? Évidemment, cela dépend de chaque situation et de chaque personne. Il y a énormément de scénarios différents qui sont survenus dans le parcours de n'importe quel individu. L'esprit derrière cette étape est de tenter, dans la mesure du possible, de vous racheter afin de classer le dossier. L'idée, c'est vraiment que tous ces dossiers, un par un, on classe ces dossiers-là de façon à ce que, eh ben, on se sent plus coupable d'avoir fait quelque chose de mal avec ces gens-là. Donc on leur demande pardon, ça va avoir comme effet le pouvoir de classer le dossier, et ben, petit à petit, en classant, en faisant ce grand nettoyage, ben, dans notre vie, on est en paix avec tout le monde. On n'a plus de gens avec qui on sait qu'on a, on a fait des choses qui n'étaient pas bien et qu'on n'est pas en paix au fond de nous-mêmes, même si quelquefois on peut mettre la poussière sur le tapis, mais en réalité, on n'est pas en paix. Donc l'idée, c'est vraiment de faire ce grand nettoyage où, par rapport à la liste que j'ai établie, ben voilà, je veux régler chaque problème pour être en paix avec tout le monde. Hein? Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, si on est en paix avec tout le monde, on sera en paix avec soi-même. Apprendre à s'excuser avec une grâce authentique est une chose que tout le monde devrait savoir faire. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, franchi une limite dans nos actions ou nos comportements en blessant inutilement une autre personne ou en commettant par inadvertance une erreur qui nécessite des excuses. Parfois, c'est la seule chose que nous pouvons faire face à l'irréparable. Cependant, il se peut que les excuses soient perçues comme une tentative de vous justifier ou d'expliquer pourquoi vous avez agi de telle façon ou dit de telle parole. Voilà pourquoi il faut qu'elles soient sincères, honnêtes et démontrent votre responsabilité personnelle. Donc, ne soyez pas de ceux qui ne reconnaissent jamais leur tort et qui refusent de demander pardon. N'allez pas demander de dire « je te demande pardon, tu te rappelles pour mon comportement dans notre relation, nanana ». Mais bon, reconnais aussi qu'il y avait une grosse partie de ta faute. Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour reconnaître nos torts. De dire « j'ai eu tort de te parler comme ça, j'aurais pas dû te parler comme ça, j'aurais pas dû te blesser et je te demande pardon pour ça ». D'accord ? Alors, il faut... Qu'est-ce que tu dis, Jean-Roger ?
Il y a deuxième partie, des fois c'est plus fort que la personne.
C'est ça. Souvent dans les couples, c'est comme ça. Hein ? Dans les couples, excuse-moi chérie, mais enfin, ben, reconnais quand même que tu as poussé un peu loin le bouchon quand même. Hein ? Cela peut vous mettre dans une position vulnérable, vous exposant à des attaques ou à des reproches. Hein ? C'est pareil, quand on fait cette démarche, elle n'est pas facile, parce que quelquefois, vous... Ben, vous reconnaissez vos torts. Mais la personne est tellement blessée, et encore, elle est tellement toujours blessée, qu'elle va vous en remettre une couche. Et là, alors que vous étiez dans une démarche de pardon, c'est difficile, parce qu'on remue le couteau dans la plaie, tu vois, et il faut accepter, il faut assumer, on a déconné. Si on a déconné, on a déconné. Hein? Et la personne, ben, parce que des fois, on pourrait dire, bon, je vais lui demander pardon, puis elle va le dire, ah, ça... Je te remercie de me demander pardon. Ça, vraiment, ça me soulage, ça me fait du bien. J'attendais ça depuis longtemps. Hein, on aimerait que ça se passe comme ça. Hein, quelquefois, ça va être... Ah ouais ! Ah, tu reviens là, comme ça, là ! Attends un peu. On reprend une dose. Desmond Tutu a dit ceci. Après avoir regardé le passé dans les yeux, après avoir demandé pardon et avoir fait amende honorable, fermons la porte au passé. Non, pas pour l'oublier, mais pour ne pas le laisser nous emprisonner. Ne pas rester emprisonné de toutes ces relations qu'on a connues et qu'on n'a pas, à l'époque, on n'a pas su reconnaître nos torts. On a fait comme si que nous, on est blanc comme neige et puis toute la faute, c'est les autres. Cela dit, ne sous-estimez pas l'effet positif, constructif, d'excuses sincères. Elles permettent de rétablir la confiance et elles lancent un message clair aux personnes offensées. Vous leur signifiez que vous êtes ainsi conscient de les avoir blessées, que vous comprenez ce qu'elles ont ressenti et que vous en éprouvez des remords. Il y a quand même cette notion d'authenticité, hein, de dire c'est vrai Seigneur, je reconnais. D'accord ? Je reconnais que ben, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça. Et on voit la transformation de notre cœur en nous-mêmes, hein, que Jésus, le Saint-Esprit, est en train de faire un travail de fond, parce qu'aujourd'hui, ben, j'ai plus honte de reconnaître où j'ai déconné, j'ai plus honte de dire que ça, c'était pas bien. Donc, on va vers une vraie liberté et notre cœur se transforme, parce que ça va nous servir pour l'avenir. Là, on fait un grand nettoyage, mais la vie continue. Et des blessures, il y en aura encore. Hein. Mais on va apprendre petit à petit que, ben, en fait, je dois, au fur et à mesure, reconnaître mes torts. Donc, c'est là qu'on va voir qu'on a été transformé. Et c'est pas facile. Parce qu'on a encore des automatismes, on a encore des réactions, je dirais, charnelles. Hein. Et si on ne veut pas retomber dans les mêmes pièges, parce que ça coûte de faire ça, ça coûte de faire un grand nettoyage. Mais l'idée, c'est de dire, allez, je le fais une fois pour toutes, et après, je nettoie ma maison, mais il n'y aura plus qu'à juste enlever un peu de poussière. C'est une autre attitude, après, hein, que de dire, ben voilà, là, je viens de déconner, je le sais. Bon, ben, je reconnais, je dis, bon, là, voilà, c'est bon. De façon à ce que notre maison soit toujours propre, l'intérieur soit toujours propre. Hein. Et puis qu'on ne laisse pas aussi l'avantage à l'ennemi. Hein. Il faut aussi réfléchir à ça. C'est que si on n'utilise pas le pardon d'une manière régulière, promptement, eh ben, ça ouvre la porte à la dispute. Ça ouvre la porte à ce qu'on se fâche et puis que ça prenne des proportions. Alors que si tout de suite, on avait dit « Excuse-moi, j'ai déconné. » Terminé ! On n'en parle plus. Passe à autre chose. Hein, ça n'a pas encore pris des proportions de dingue. Hein. Mais si on ne le fait pas, ben c'est là que l'autre s'énerve, c'est là que ça, la mayonnaise, elle monte. Et puis, ben au lieu qu'on aurait pu régler ça vite fait, bien fait, par une petite excuse, tu vois, ben finalement, on est mal. On est mal parce que on envoie du lourd. Et le petit week-end qui se présentait bien, part mal. Hein, ça part mal. Je ne sais plus si on va aller faire le pique-nique à la plage, je ne suis pas trop sûr. Reconnaissez votre responsabilité propre. Parfois, la simple formulation « Je regrette sincèrement de t'avoir blessé. Puis-je faire quelque chose pour me faire pardonner ?» démontre que le sérieux de votre engagement. Les gens trop orgueilleux n'ont jamais se mouiller à ce point. On est vraiment entre un choix entre l'orgueil et l'humilité. L'humilité reconnaît ses torts, l'orgueil reconnaît les torts de l'autre. Mais pas trop les siens. Nous avons réparé nos torts directement envers ces personnes dans la mesure du possible, sauf lorsque, ce faisant, nous risquions de leur nuire ou faire tort à d'autres. Donc, on avance hein, dans l'étape 9. Et là, on va voir qu'il y a... Ce n'est pas toujours possible de le faire et ce n'est pas toujours souhaitable quand nous risquons de leur nuire ou faire tort à d'autres. Notre volonté n'est jamais à chercher à régler des comptes. Dans l'esprit de cette étape 9, on ne règle pas de comptes ou à se venger, mais à porter du fruit digne de la repentance. Nous sommes devant le Seigneur, on porte du fruit de la repentance, c'est-à-dire qu'on a des remords sincères et on veut vraiment montrer au Seigneur qu'on se soumet à sa volonté, on veut vraiment nettoyer notre cœur et on veut vraiment être en paix avec les hommes, du moins tant que c'est possible, de notre part. Vous connaissez l'adage « On reconnaît un arbre à son fruit ». L'apôtre Jacques a bien su l'exprimer lorsqu'il a dit « Ceux qui créent la paix autour d'eux, sèment dans la paix. Et la récolte qu'ils obtiennent, c'est une vie juste. » Le thème de la paix, comme celui du pardon, est cher au christianisme. Jésus a mentionné dans son premier sermon que ceux qui font la paix autour d'eux sont heureux et que Dieu les appelle ses fils. Ce n'est pas peu dire. C'est un désir intense de faire la paix avec le passé et de poursuivre votre démarche de restauration. Vous pouvez avoir davantage vos intérêts à cœur que ceux des personnes que vous avez lésées. D'accord ? Donc, il faut faire attention. Soyez prudent en sachant que vous devez chercher à réparer et non à empirer la situation. Alors, dans cet esprit, voici quelques conseils pour vous aider. D'abord, consacrez du temps en priant et à la réflexion avant d'entreprendre toute démarche de réparation ou de réconciliation. Préparez soigneusement ce que vous allez dire. N'improvisez pas, n'agissez pas impulsivement, mais planifiez la rencontre judicieusement. Gardez votre cœur bien disposé face aux réactions négatives de certaines personnes à qui vous tenterez de faire amende honorable. Confiez à Dieu vos inquiétudes, demandez-lui de vous guider et d'ouvrir les portes qui semblent fermées. Entretenez des attentes raisonnables envers vous et mesurez envers les autres, afin d'éviter de douloureuses déception. On en a parlé tout à l'heure. On vient, c'est parce que c'est déjà pour nous aussi, pour nous, pour vraiment être dans cet état d'esprit où moi je veux être en paix avec tous les êtres humains. Maintenant, bah, que nos attentes soient raisonnables par rapport à la réaction que les autres vont avoir. Repoussez votre démarche si vous ne sentez pas la personne accessible et désireuse de vous rencontrer. Soyez disposé à aimer et à pardonner en toutes circonstances. Assumez la responsabilité de vos actes et de vos paroles. Résistez à l'idée de vous justifier et restez sobre dans vos propos. C'est pas la peine de trop s'étaler, parce que plus on va s'étaler et plus on risque de raconter n'importe quoi. Prenez note de vos sentiments et de vos émotions après chacune des rencontres. Pour goûter à la vraie vie, le pardon n'est pas une option, mais une nécessité. Pardonner, c'est un don, un geste de grâce afin de libérer un prisonnier et pour découvrir que ce prisonnier, c'était vous, nous. Vous comprenez ça? Quand on ne donne pas le pardon, ça veut dire qu'on retient la personne. On retient la personne avec souvent une idée d'injustice, une idée de vengeance, même qui peut aller jusqu'à la haine. Et ça, là, ça va se cultiver en vous. C'est-à-dire que vous gardez cette personne en vous et vous ressassez tout ce qu'elle vous a fait. Et donc, en fait, vous la retenez prisonnière, mais en réalité, c'est vous qui êtes prisonnier. C'est comme si que vous exerciez la vengeance, vous lui faisiez boire de l'amertume, sans vous rendre compte que vous êtes en train de vous empoisonner avec cette personne-là. Le pardon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'invention de Dieu pour mettre un terme à l'injustice et à la souffrance dans un monde où les gens, malgré leurs meilleures intentions, ne réussissent pas à faire la paix et à cesser de se blesser mutuellement. On n'a rien trouvé de mieux que le pardon. Parce qu'on est on se blesse, alors quand on est avec les proches, on se blesse malencontreusement. Si c'est nos proches, c'est qu'il y a de l'affection, c'est qu'on a établi des relations profondes. Donc si on se blesse, c'est malencontreusement. Mais on ne peut pas dissocier le pardon de ça, parce que sinon on n'arrivera jamais à s'en sortir, puisque on se blesse régulièrement sur une base régulière, malencontreusement. Alors, le pardon, on va regarder un petit peu le pardon. Le pardon, ce n'est pas l'oubli. Quelquefois, il y en a qui ont interprété le pardon comme « donc si je pardonne, il faut que j'oublie ». Non, le pardon, ce n'est pas l'oubli. On n'oublie pas ce qu'on nous a fait. C'est deux choses différentes. On pardonne, mais on n'oublie pas. Et heureusement, parce que ça serait grave d'oublier comme si on était amnésique. Et puis, si c'est quelqu'un, un proche, dangereux pour nous, comme on l'a oublié, il n'est plus là, j'ai plus ça en tête, donc je retourne vers cette personne-là et je me remets en danger. Ça serait grave. Donc, non, le pardon, ce n'est pas l'oubli. Le pardon n'est pas forcément un acte immédiat de la volonté. Donc, le pardon, c'est plus quelquefois un processus. Dans le sens qu'il y a des choses qui sont compliquées. Je parlais de la personne tout à l'heure qu'on ne veut pas oublier. Parlons par exemple dans le cas d'un viol. Dans le cas d'un viol, c'est sûr que on doit pardonner à cette personne-là, mais il faut reconnaître que quelquefois, ça va être un processus. Parce que si on pardonne trop vite, en fait, on croit qu'on a pardonné, en réalité, on n'a pas pardonné. Donc, pardonner, c'est vraiment de demander à Dieu de la capacité de pardonner ce qu'on nous a fait, parce que c'est venu nous chercher dans notre chair, et ça laisse un lien indélébile, ça c'est une marque indélébile. Donc, même s'il est nécessaire de pardonner, il faut reconnaître que ça peut rentrer dans le cadre d'un processus. Le pardon ne signifie pas excuser, d'accord ? C'est que quelquefois, on va mal interpréter le pardon et on va dire, ah ben voilà, je pardonne, donc comme ça, ben, il est tranquille, il est excusé de ce qu'il a fait, il n'y a pas de problème. Non, 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 non. En fait, ça ne se met pas dans cette situation-là. On pardonne, mais en fait, on donne, on préfère la justice de Dieu. Et Dieu a dit, à moi la justice, à moi la rétribution. Et donc, en fait, tous nos faits et gestes sur cette terre sont consignés dans le livre de vie. Et quand il comparaîtra devant le tribunal de Christ, ben, en fait, les livres seront ouverts. Et ben, il devra rendre des comptes. Et c'est à ce moment-là que Dieu fera justice. Donc, ce n'est pas à nous de faire justice. Il n'est pas excusé de ce qu'il a fait dans le sens qu'il a une responsabilité, mais on la confie à Dieu et on pardonne à cette personne-là, mais Dieu rendra justice. Ça va ? Et enfin, le pardon n'est pas synonyme de réconciliation. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Cela dépend vraiment de chaque cas, mais il est certain que, bah, pour revenir à l'exemple du viol, il est certain que on pardonne, mais on ne va pas forcément se réconcilier avec la personne. Je lisais l'autre jour un témoignage de quelqu'un qui avait mal interprété le pardon et qui croyait que du fait qu'on avait pardonné, eh ben, forcément la relation redevenait normale. Mais elle a fait ça avec le tonton qui l'avait violée plusieurs années auparavant. Mais il a refait une tentative. Sérieux ? Mais c'était pas sage de sa part. Quand quelqu'un a un dysfonctionnement comme ça, là, il faut dire, est-ce que le dysfonctionnement, il est toujours là ou pas ? Tu vois ? Donc, on prend des précautions quand même. On ne fait pas n'importe quoi. Donc, ça, c'est un cas. Ça peut être aussi une relation qu'on a eue pendant quelque temps avec quelqu'un. Et puis, ça s'est mal terminé. Mais on n'a pas forcément été clean. Donc, on va l'appeler. Soit on la voit, soit ça se fait au téléphone, et puis on va lui demander pardon pour tel comportement ou tel comportement, mais ça nécessite pas forcément qu'on va reprendre une relation normale. Hein. Je pense par exemple, vous êtes marié, mais vous faites le vase restauré, puis vous savez qu'avec une ex, eh ben, ça s'est mal passé. D'accord ? Donc, vous l'appelez pour lui dire, voilà, je m'excuse, je me suis mal comporté, tout ça. Mais vous n'allez pas forcément reprendre une relation avec elle, même amicale. Parce que votre femme actuelle, elle ne va peut-être pas voir ça d'un bon œil. Donc, on va peut-être en rester là, mais au moins, on aura mis les choses au clair. Ça va ? Le pardon ne s'impose pas. Évidemment, le pardon, c'est quelque chose qu'on donne, hein, c'est un don, hein, ça se donne le pardon, mais ça ne s'impose pas. Hein, on ne peut pas lui dire, demande-moi pardon, demande-moi pardon, tout de suite. ça ne marche pas comme ça. Oui, bien sûr. Là, je l'ai mis plus dans le sens qu'il y en a qui pensent que, tu vois, le pardon... Bah, ça veut dire que le gars est excusé. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui ne veulent pas pardonner, parce qu'ils disent, mais c'est trop facile. Attends, le gars, il a fait ça, et puis là, il faut l'excuser. Non, il faut comprendre déjà que c'est d'abord pour toi, déjà, pour pas que tu sois prisonnier de cette personne-là, et t'inquiète pas, la justice, elle sera rendue, tu vois, mais pas par toi. Donc c'est plus dans ce sens-là. Ouais. Et le pardon ne change pas l'autre, hein, on doit accepter l'autre tel qu'il est, d'accord ? Donc, on se pardonne mutuellement, mais le pardon ne va pas nécessairement enclencher une transformation chez l'autre. Donc, il faut aussi accepter ça, que ben, il m'a demandé pardon, mais ce n'est pas pour autant qu'il va changer, quoi. D'accord ? Alors, comment pardonner ? La difficulté ne vient pas de Dieu, mais elle vient de notre part, de notre incapacité à nous laisser aimer. Comment va-t-on ouvrir notre cœur pour recevoir le pardon de Dieu ? Parce qu'en réalité, pour pardonner, il faut déjà avoir reçu le pardon. C'est difficile de donner le pardon alors qu'on ne s'est jamais senti pardonné. Et c'est là où on comprend que nous, nous avons reçu, chacun de nous qui sommes chrétiens, on a reçu le pardon de Dieu pour quelque chose qu'on ne méritait pas. On l'a reçu le pardon, mais on ne méritait pas le pardon. Pardon, c'est dans ce sens-là que je veux le dire. Et pourtant, ben Dieu nous a fait grâce. On était condamnés et Dieu nous a pardonnés pour quelque chose qu'on ne pouvait pas régler par nous-mêmes. Et donc, c'est à ce titre-là qu'on doit comprendre que maintenant que moi, j'ai reçu le pardon, ben je suis amené à le donner aux autres. Vous comprenez ? Si on ne donne pas le pardon aux autres, ben c'est qu'on n'est pas conscience du pardon qu'on a reçu de Dieu. Donc, il faut déjà être conscient du pardon que nous, on a reçu de Dieu pour pouvoir pardonner les autres. Donc déjà, c'est une décision. Première étape, c'est déjà comprendre que le pardon, ce n'est pas une question d'émotion. Parce que si vous êtes vraiment en colère, si vous avez de l'amertume dans votre cœur, ben vous ne pardonnerez jamais. Donc c'est avant tout une décision parce qu'on a compris que le pardon, c'est déjà pour moi que je le fais, pour ne pas rester prisonnier de cette personne-là. Le pardon ne va pas venir seul. Il faut décider de ne pas prendre le chemin de la vengeance pour régler une situation d'injure, de blessure, de trahison, d'injustice. Ensuite, il faut reconnaître qu'on a été blessé. Lorsqu'on a souffert d'une injustice, d'une trahison, lorsqu'on a été insulté, certains ont tendance, parfois, à vouloir tout d'abord excuser l'autre. Donc là, on est dans un autre cas de figure où on ne reconnaît pas qu'on a été blessé. D'accord ? Et on va excuser l'autre à vouloir oublier ou minimiser la faute. Parfois, c'est même l'offensé qui se sent coupable. Comme dans le cas d'abus sexuels d'enfants, les enfants qui se sentent coupables. D'accord ? Donc là aussi, il faut reconnaître qu'on a été blessé. Parce que quelquefois, vous voyez la personne, elle a été blessée, mais par orgueil, elle vous dit, moi, blessé, là ? Jamais j'ai été blessé. Mais tu crois que lui, il va me blesser ? Mais jamais. Ouais, on voit l'orgueil qui est là, parce qu'on ne reconnaît pas la blessure. Mais ce n'est pas parce qu'on ne la reconnaît pas comme ça que la blessure n'est pas à l'intérieur de nous. Hein, et que petit à petit, eh ben, si on ne reconnaît pas et si on ne demande pas pardon, la blessure est là. Et petit à petit, cette blessure-là, elle va se transformer en amertume. Et l'amertume, c'est un poison qui est au fond de nous. Et la personne, elle dit non, mais c'est de l'orgueil. En fait, quand elle va voir cette personne-là, elle va vouloir l'éviter. Elle va changer de trottoir. Si c'est dans l'église, elle va changer d'allée. Elle va aller dans une autre allée. En fait, bref, elle est blessée, mais elle ne veut pas le reconnaître. Donc là aussi, c'est très important de dire « j'ai été blessé ». Et d'ailleurs, souvent dans les relations proches, c'est la démarche qu'il faut avoir. Tu vois ? C'est la démarche qu'il faut avoir pour que ça ne se reproduise pas. Dans les couples, souvent, il manque cette démarche-là. C'est-à-dire que le comportement de ma femme ou de mon mari m'a blessé, mais je ne le reconnais pas. Je ne le dis pas. D'accord ? Mais, et puis si je ne le dis pas, ben en fait, je l'emmagasine au fond de moi et ça devient une colère passive. Ça fait quelque chose qui boue à l'intérieur, mais je fais comme si tout va bien. Mais le truc se fait quand même. Et donc, ça va faire que la relation, petit à petit, va se dégrader. Alors que si on avait l'attitude de dire, ben écoute chérie, là, tu vois ce que tu as dit l'autre jour, ou ce que tu as fait l'autre jour, ou ce que tu as dit devant les gens et tout ça, ben, ça m'a fait mal. C'est ma réponse. C'est moi, je parle. Je dis même pas « tu m'as fait mal », parce que là, je l'accuserai. Non, je dis simplement ben « là, j'ai été blessé, ça m'a fait mal ». Et dans un couple normal, entre parenthèses, si ça existe, dans un couple qui s'aime, okay, l'autre devrait dire ben, « excuse-moi chérie, j'ai pas fait attention, je recommencerai pas ». Et là, on grandit ensemble, d'accord ? Plutôt que de rien dire, et puis, même si tu dis rien, si tu as été blessé, tu as été blessé. Et en plus de ça, l'autre ne le sait pas. C'est qu'il y a des fois, l'autre, il va dire, on dirait que tu es fâché, tu vois, on dirait que ça ne va pas. pilote, il... Non, ça va bien. Mais en fait, c'est parce qu'il y en a, il y a aussi des femmes, c'est surtout le côté féminin, ils croient que... Non, c'est surtout les femmes, laisse-moi aller au bout, c'est surtout les femmes qui croient que le mari devrait savoir. Tu vois ? Parce que, en fait, la démarche, c'est s'il m'aime vraiment, j'ai pas besoin de le dire. Mais ça, c'est mal connaître le côté masculin. Côté masculin, il faut lui mettre le nez dans l'assiette. Il faut dire, regarde, tu vois, il faut dire, là, tu m'as fait mal. Oh bon, ah, d'accord, je n'ai pas vu. En plus, tu n'as pas vu. Donc, c'est important dans les relations de dire, là, ça me fait mal. Là, ça me blesse. Hein. Mais des fois, c'est l'orgueil. L'orgueil qui empêche de dire, ben là, ça me fait mal. Donc, on joue à celui qui est dur. Puis, en fait, ben, y a la blessure quand même qui est là. Mais au final, ça, c'est des relations qui en pâtissent. Donc, c'est une attitude de dire régulièrement, sur une base régulière, parce que si on veut grandir ensemble, eh ben, c'est de se dire, ben, là, j'ai mal. C'est même pas tu m'as fait mal. Parce que si tu dis tu m'as fait mal, l'autre est capable de te dire, oh, chouchotte. Et puis là, ça va s'aggraver. Tu vois, la chouchotte, elle va prendre ça mal. Tu vois, non, juste dire, ça m'a fait mal. C'est ma responsabilité. Et j'ai mal. Et j'ai le droit d'avoir mal. Tu vois. Ça va ? Il faut redresser cette situation-là, rentrer en contact avec sa blessure intérieure. Ce n'est pas facile. On a des mécanismes de défense qui nous empêchent de vouloir trop souffrir. On a peur aussi de rencontrer notre colère. Donc, on fait toutes sortes de manœuvres pour ne pas rentrer en contact avec nos émotions. Mais tout ça, ça n'arrange pas la situation. On essaie d'excuser l'autre. Alors là, ça, c'est quand on a un problème, hein, où finalement, on ne voit pas le problème de l'autre et on veut acheter la paix. Et on est dans la paix. C'est une fausse paix, en fait. Mais on achète la paix, on dit non, mais il n'a pas fait exprès. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, il faut dire les choses. Tu as été blessé, tu dis que tu as été blessé. Voilà. On va lui pardonner rapidement et quelquefois beaucoup trop rapidement. Beaucoup de gens pardonnent trop vite sans respecter ce qui s'est passé à l'intérieur d'eux-mêmes. Même s'il n'y a pas une véritable purge des différentes émotions, douleur, tristesse, colère, frustration, déception, on ne guérira pas. Pardonner demande du courage. Et regarder à ses blessures, regarder à ses émotions, c'est important si on ne veut pas que tout ça, ça s'empire. Oui, aussi, ça peut prendre du temps. Mais souvent, tu vois, ces choses-là, là, ça ne paraît pas, mais au départ, ça peut partir de presque rien. Tu vois. Mais ce qui va devenir dangereux, c'est l'accumulation. Tu vois, les frustrations qui s'accumulent, les déceptions qui s'accumulent. Et comme on ne parle pas, tu vois, ben on fait une erreur. Hein, on fait une erreur. C'est pour ça que dans les couples, j'insiste toujours sur le cœur à cœur. Tu sais bien, j'insiste beaucoup sur le cœur à cœur parce que ben, c'est l'occasion de se dire, chérie, comment ça s'est passé cette semaine ? Ben, cette semaine, comment ça s'est passé ? Ben, tu as été un goujat. Ah bon ? J'ai été un goujat, moi ? Ouais, non, on purge, on règle les problèmes parce que des fois, on blesse l'autre sans s'en rendre compte. L'autre est blessé, mais il dit rien. Et puis ça s'accumule. Et l'autre qui ne voit pas, il croit que tout va bien. Il croit que tout va bien, mais ça ne va pas. Donc, y a une tension qui se crée à la maison, tu vois. Et tout ça à cause des non-dits. C'est pas exprimé, c'est pas dit. Reconnaître qu'on a été blessé veut aussi dire identifier ce qui a été touché en nous. Ça aussi, c'est un travail personnel. Mais quand on a été blessé, bah c'est vrai qu'on peut le dire à l'autre pour qu'il évite d'appuyer là-dessus parce que ça fait encore trop mal. Mais c'est aussi révélateur. C'est que ça révèle qu'en nous, il y a encore peut-être un petit souci. Quoi, tu vois. Donc, c'est aussi identifier ce qui a été touché en nous. Ce n'est pas jouer à la victime et se lamenter sur soi-même d'une façon générale, mais c'est important de savoir exactement ce qu'on a perdu par rapport à nous et également par rapport à l'autre. Donc, c'est guérissant, en fait, dans une relation, eh ben, de progresser ensemble et de parler, d'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'on va tout régler, mais au moins, bah, on s'excuse, on se pardonne, et puis chacun fait son travail de son côté. Dans tout pardon, il y a un deuil à faire par rapport aux attentes que l'on avait vis-à-vis de quelqu'un. Donc dans une relation, il faut être réaliste. Hein. Ce qu'on a du mal à faire, nous les humains, c'est d'accepter les autres tels qu'ils sont. On a toujours l'espoir qu'ils vont changer, on va les transformer, on va réussir, hein, soit par notre comportement ou... Non mais en fait, on n'a pas compris. L'être humain, lui, il est comme il est. D'accord ? Le seul qui peut le changer, c'est Jésus-Christ. C'est le travail qu'on fait avec le Saint-Esprit, où là, on change petit à petit, parce que seul Dieu peut changer notre cœur. Mais nous, les êtres humains, ben, dans une relation, il ne faut pas qu'on ait des attentes irréalistes. Et ça entraîne beaucoup de déceptions quand on n'a pas cette conception-là. Parce qu'en fait, ben, on va être déçus, et puis on va cultiver cette déception alors qu'on devrait plutôt faire un deuil en disant « mais là, je m'attendais à autre chose. Mais est-ce que je n'avais pas des attentes irréalistes ?» Hein? Souvent, quand j'enseigne le mariage, ben ça, c'est la deuxième phase. Hein? C'est la phase de déception parce que c'est la phase où on rentre dans une certaine réalité. Hein? La première phase était irréaliste. La première phase, c'est « oh, il est magnifique. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est parfaite. » Mais c'est marrant parce que je cherche des défauts, il n'y en a pas. C'est étonnant. Tu vois? Alors ça, c'est la première phase. Complètement irréaliste, tu vois. Mais la deuxième phase, c'est quand on vit ensemble et que là, évidemment, on ne peut plus cacher ce qu'on avait caché jusqu'à maintenant parce qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Donc, on avait sorti le grand jeu. Et puis là, c'est la deuxième phase. La deuxième phase, on vit ensemble. Et là, on fait « waouh, punaise, j'avais pas vu ça. Waouh, il m'avait caché ça. » Donc, c'est la deuxième phase. Et là, ben, forcément, nos attentes qui étaient irréalistes, tu sais, du style « ah, oh, c'est bizarre, je regarde bien, je cherche. Il n'y a pas de défaut, dis donc. C'est vraiment, merci Seigneur, gloire à Dieu, la perle que tu m'as donnée. Waouh. » Et puis après, ben, forcément, la réalité, c'est qu'il ben, est comme tout le monde. Il a des défauts. Donc, c'est là qu'on devient réaliste. C'est là qu'on apprend à connaître l'autre. Et c'est là qu'il faut accepter. On fait des deuils. Tu vois, on dit, ben non, il n'est pas comme ça. Mais bon, heureusement, il y a ça, il y a ça. Et ça, c'est la troisième phase, hein, qui est la phase de la maturité, où là, on pèse le pour et le contre. Et puis, on dit, bon, ben, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Tu vois, bon. Et on avance, on se connaît mieux. Mais c'est le principe d'une relation. Une relation, on doit apprendre à se connaître, à s'accepter tel qu'on est, tu vois, et changer par la grâce de Dieu quand on est chrétien et qu'on sait qu'on doit être transformé dans sa relation avec Dieu, bah c'est de changer et bah de plaire à l'autre, sinon je ne vois pas pourquoi on est ensemble, hein, mais on va faire du cœur à cœur, pour essayer de plaire de plus en plus à l'autre. Et ce qui doit être changé par la grâce de Dieu. Hein? Tout est possible. Hein? Et il faut écouter l'autre dans ses besoins pour pouvoir y répondre. Et c'est mutuel. C'est mutuel. Eh oui. Ben oui, parce qu'on était un peu brut de décoffrage. C'est une connaisseuse qui vous parle. Quand on peut ainsi repérer ce qui a été touché en nous, notre intégrité, notre fidélité, la confiance en l'autre, notre agressivité commence à fondre parce qu'on pensait auparavant que c'était toute notre personnalité qui avait été atteinte. Non, simplement que, ben, il faut parler entre nous parce qu'il y a des choses à changer. La troisième chose, c'est dire sa souffrance. Il faut extérioriser sa douleur pour pouvoir en faire quelque chose, la gérer, la guérir. Par exemple, comme vous avez en ce moment un cahier de bord, écrire dans un cahier, parler à quelqu'un de confiance, nous libère du poids de la blessure. Attention, il ne s'agit pas de parler pour se venger ou dire du mal de l'autre. Hein? On n'est pas là pour médire et on n'est pas là pour comploter contre l'autre. Hein? Non, on est là, et c'est souvent nous, on l'a vécu dans l'étape 5, hein, où on confesse et on dit notre douleur. Et puis, bah, quand on dit notre douleur, bah, écoute, on comprend notre humanité, on fait la paix avec notre humanité, on fait la paix avec l'humanité de l'autre. On devient réaliste. D'accord ? C'est possible que le prince charmant soit descendu de son cheval blanc. Et il n'y a plus de cheval blanc. Mais il n'y a plus de chevalier non plus. On a décidé de ne pas se venger. Il s'agit de parler de sa souffrance et de décrire des faits. Il faut aussi trouver une personne assez mûre pour écouter nos doléances sans que cette personne en vienne à mépriser celui qui nous a fait du mal. Ni qu'elle aille répandre partout la nouvelle. De cette mauvaise tendance et de la mauvaise compréhension du processus de pardon naît quelquefois notre solitude. Il y a des personnes qui meurent de ne pas pouvoir parler de leur souffrance, de ne pas être capables de s'exprimer. Nous, les chrétiens, devrions être capables d'offrir cette écoute compatissante aux autres. Parler à quelqu'un permet d'y voir clair en nous et d'identifier ce qui a été touché. Quelquefois, notre souffrance, elle nous entraîne à ne voir que ce qui ne va pas chez l'autre. Et à en parler avec quelqu'un d'expérience, ben, on peut aussi regarder ce qui doit changer chez nous. C'est comme ça qu'on va guérir. Et enfin, quatrième étape, recevoir la guérison. Le pardon total n'est pas possible si notre être intérieur n'a pas été guéri. La plupart du temps, parler à quelqu'un permet à la guérison de se faire en nous, avec le temps. Nous avons en nous une capacité intérieure réparatrice. Mais pour le croyant, c'est là qu'intervient Dieu. Un ami, un thérapeute, peut nous aider à cheminer jusqu'à la neuvième étape, mais il ne peut pas nous guérir. Quand la blessure est trop profonde ou très ancienne, le moi intérieur n'a plus la force de réparer les dégâts. Il y a besoin de Dieu. Si vous êtes croyant, si vous croyez à la puissance de l'Esprit-Saint, vous allez être capable de lui demander de vous guérir, de vous réunifier, de recoller les morceaux et d'estomper la douleur. C'est là une promesse de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Le Seigneur m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et dernière étape, s'ouvrir au pardon. Une fois la guérison enclenchée, on peut dire « mon cœur est ouvert pour recevoir le don du pardon ». En effet, on ne pardonne pas aux autres, on se laisse prendre par le pardon. Le pardon ne nous appartient pas. Le pardon n'est pas une vertu morale, c'est une vertu divine. Ça vient de Dieu. On se laisse pardonner, on prend le pardon et on donne le pardon. Cela veut dire que c'est Dieu qui nous l'inspire. C'est Dieu qui en est l'agent et c'est Dieu qui en est l'objet. C'est pour cela que lorsqu'on rentre dans une dynamique de pardon, on met sa volonté dans les premières étapes, mais une fois rendu à cette étape finale, il s'agit de devenir accueillant, réceptif de l'amour de Dieu. Le pardon et l'amour de Dieu vont ensemble. On ne donne pas le pardon, on le reçoit. Le vrai moteur pour pardonner, c'est de se savoir aimer profondément, inconditionnellement de Dieu. Savoir que nous avons été pardonnés alors qu'on ne le méritait pas. Mais c'est parce que Dieu nous aimait. Si vous vous sentez aimé profondément, alors vous allez être capable de pardonner. C'est ça la clé. La clé revient à la relation qu'on a avec Dieu. Tu vois ? Si on reçoit cet amour inconditionnel de Dieu, alors on aura moins d'attentes avec les êtres humains. On va les accepter tels qu'ils sont. Et donc, on va retrouver cette fameuse parole de Jésus à la croix. Père, pardonne-leur, parce qu'ils sont comme ils sont, ils ne savent pas ce qu'ils font, hein. Ils sont aveuglés, et donc pardonne-leur. Et on aura ce deuxième verset que j'aime bien aussi utiliser, quand on se sent aimé de Dieu, que vraiment notre identité, elle est vraiment en Christ, alors on a plus de facilité pour dire aussi que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Parce que des fois, on veut pas pardonner, mais on ne se rend pas compte que toi aussi, tu avais besoin de pardon. Hein, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et on a vu que personne ne jette de pierre, parce qu'on a tous péché. Et qu'on a tous, on devrait tous avoir le droit au pardon. Mais c'est Dieu qui nous donne ce pardon-là. Quand vous entrez dans le monde du pardon, vous entrez dans un monde d'abondance. C'est un monde de générosité et d'amour. La générosité et l'amour gratuit de Dieu. Il n'y a pas de rationalité possible là-dedans. C'est pas la peine de réfléchir à être cartésien là-dedans, à trouver des explications. C'est un monde d'amour, de générosité. Après le pardon, que faire de la relation avec l'offenseur? On a le choix. Est-ce que je me réconcilie avec la personne ou pas? Si tu te réconcilies avec la personne, la relation ne sera sans doute plus celle d'avant. Et dans certaines situations, il est mieux qu'il n'y ait pas de réconciliation physique si la personne n'a pas changé. Par exemple, si elle peut nous agresser, nous faire du mal, toujours nous rabaisser, alors nous devons nous protéger de l'abus. Pour conclure, comme pour toutes les étapes précédentes, il est important d'être réaliste. L'achèvement de votre 9e étape ne peut être contenu dans un délai précis. Faut plus le voir comme un phénomène de processus. D'accord ? De ne pas forcer les choses, mais petit à petit, d'avoir ce désir de ne plus laisser de cadavres dans le placard, de nettoyer notre être intérieur, d'être propre, de se sentir propre de l'intérieur, de nettoyer, au fur et à mesure de nettoyer, et puis de ne plus recommencer les choses qu'on pouvait faire avant. Maintenant, c'est fini. Je nettoie ma maison et ce n'est pas pour laisser rentrer la saleté maintenant. Donc, je continue ce travail-là. Ne vous dépêchez pas de terminer la liste que vous avez rédigée à la 8e étape, comme si vous cochiez votre liste de courses ou de tâches à faire. En fait, il se peut que certaines de vos réparations ne puissent jamais avoir lieu et que d'autres ne soient jamais terminées. Armez-vous de patience, de compréhension et de persévérance, puisque vos efforts peuvent se poursuivre à long terme. En réalité, chaque jour où vous vous efforcez de vous abstenir de faire du mal à votre famille, à vos amis, à votre collègue et même à des inconnus, et où vous essayez d'adopter un comportement aimant avec eux, les acceptant comme ils sont, c'est un jour où vous grandissez et poursuivez votre marche vers une pleine liberté. Amen. Il y a vraiment sentir la vraie liberté, vous voyez, c'est d'être affranchi des êtres humains dans ce qu'ils peuvent vous donner ou ne pas vous donner. La liberté, elle est là. Parce que si dans votre liberté, si vous ne comprenez pas cette liberté, vous comprenez que oui, on a besoin des êtres humains, mais on y met trop d'attentes, des attentes qui ne sont pas toujours réalistes parce qu'on ne les prend pas comme ils sont, alors on va souffrir. Et si vous souffrez, vous n'êtes pas libre. Vous êtes prisonnier d'eux. La vraie liberté, elle est dans cette dépendance avec Dieu, parce que Dieu nous donne cet amour inconditionnel, et de relâcher nos attentes avec les êtres humains. De les prendre comme ils sont. Accepter l'amour qu'il nous donne, mais quand l'amour n'est pas là, ou quand ce qu'on espérait n'est pas là, juste se rappeler qu'on est juste des êtres humains, avec nos limites, avec notre humanité. Et que, en réalité, à ce moment-là, c'est que peut-être que tu as eu trop d'attentes avec cette personne-là. C'est un travail, c'est un processus, mais c'est un processus qui nous mène vers la liberté. C'est pas facile, parce que depuis qu'on est petit, nous dépendons des êtres humains, et que petit à petit, on apprend à dépendre de Dieu et non plus des êtres humains, et d'accepter les êtres humains comme ils sont. Mais c'est une clé, c'est vraiment une clé du bonheur, une clé que le Fils de Dieu, s'il vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est là où vous souffrirez le moins, c'est en ayant des attentes réalistes avec les êtres humains. En acceptant le fait que des fois, ils seront là, et bien là, mais des fois, ces mêmes personnes ne seront pas là. Et quand ils ne sont pas là, il faut accepter que moi aussi, quelquefois, je ne serai pas là pour toi. C'est ça la réalité. C'est que nous aussi, des fois, on n'est pas, comment on pourrait dire, invincible, on n'est pas parfait, et des fois, on ne sera pas là, et des fois, on ne l'aura pas fait exprès. c'est qu'on ne s'est même pas rendu compte qu'on aurait dû être là. Mais on n'était pas là. Donc, ce jour-là, on aimerait bien qu'on nous pardonne de la même manière, mais pardonnons à ceux qui n'étaient pas là ce jour-là. Alléluia. J'aime cette phrase-là qui dit que Dieu m'accorde la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse de faire la différence. Vivre un jour à la fois, profiter d'un moment à la fois, accepter les difficultés comme le chemin de la paix. Amen. Prendre comme il l'a fait ce monde pécheur tel qu'il est et non tel que je le voudrais, confiant qu'il arrangera les choses si je me soumets à sa volonté, pour que je puisse être raisonnablement heureux dans cette vie et suprêmement heureux avec lui pour toujours et à jamais dans l'autre. Amen. Reinhold Niebuhr. C'est plein de sagesse, c'est plein de réalisme, mais ça montre nos limites, ça montre qu'on essaye d'être le mieux qu'on peut, mais on n'est pas parfait, et personne n'est parfait, et d'apprendre à s'accepter tel que nous sommes, c'est le début de la liberté. Donc le défi, c'est réparer les choses qu'on a mal faites, hein, réparer les blessures qu'on a pu occasionner aux gens autour de nous. Ça va nous remettre dans une bonne santé, ça va nous permettre de vraiment faire la paix avec nous, de ne plus avoir de culpabilité et vraiment de naviguer vers des eaux paisibles. Hein. Et le mot-clé, quand c'est possible, hein, la réconciliation, quand c'est possible, mais j'ai expliqué que quelquefois, non, c'est pas possible. Mais dans la majorité des cas, c'est possible de faire la paix et de se réconcilier, hein, de vivre en paix. C'est ce que Dieu nous incite à faire. Et soyez en paix avec les hommes autant que cela dépend de vous. Amen. Alléluia. On va prier quelques instants. Erland, tu peux donner ces feuilles-là, hein, pour, donc, il n'y a pas trop de travail, parce que le travail, là, il a été fait, et puis il reste à faire pour les prochaines. Non, ça, c'est les feuilles pour ce soir. Alléluia. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci encore, Seigneur. Merci pour tes enseignements sur le pardon, la compréhension du pardon, que le pardon devienne quelque chose de courant pour nous, quelque chose de naturel pour nous, que nous puissions nous excuser quand nous réalisons que nous avons mal fait, que nous puissions demander pardon quand nous avons mal fait, que nous ne soyons pas prisonniers de notre orgueil, que nous ne soyons pas prisonniers de nos blessures, mais qu'au contraire, nous puissions nous libérer au fur et à mesure, nous libérer de nos blessures et de pouvoir agir promptement avec le pardon, l'excuse, Seigneur, afin que nous soyons en paix avec les autres, que nous soyons en paix avec les êtres humains, que nous soyons en paix dans notre famille, dans notre foyer, que nous soyons en paix dans notre couple, que nous soyons en paix au travail, que nous soyons en paix avec nos collègues. Seigneur, apprends-nous à marcher comme toi tu veux que nous marchions, Seigneur. On a besoin de toi, Seigneur, pour grandir, pour progresser, pour goûter à cette vraie liberté, que nous soyons sereins, que nous soyons dans cette paix que tu veux pour chacun d'entre nous, que nous ne soyons pas toujours surchargés, chargés par tous ces problèmes relationnels. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, de toutes ces relations toxiques, ces relations où nous n'avons pas su nous comporter comme toi tu veux que l'on se comporte, Seigneur. Aide-nous à progresser dans cette vision des relations, Seigneur. Père, je compte sur toi, Seigneur, pour cette marche avec toi, ce processus avec toi, et que ce pardon fasse partie de notre vie de chaque jour, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Continue ton œuvre. Tu as commencé ton œuvre avec toutes ces étapes, Seigneur. Permets-nous d'aller plus loin encore, Seigneur. Et nous allons voir ta main à l'œuvre Nous allons voir notre transformation. Nous allons voir notre changement, Seigneur. Et c'est déjà nous qui allons en profiter en premier. Et les autres vont voir notre changement. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonne soirée à vous tous. On se voit vendredi pour la dernière soirée et avec un petit agapé pour ceux qui veulent rester après. Voilà. Hein? Amen.